Histoire de la chapelle de l'Othéa. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie qui s'est passée entre 1985 et la fin de l'année 1999, juste avant l'an 2000. Si un jour vous allez à l'Othéa, petit hameau situé en Finistère Sud, en lisière de forêt, à 3 km de Quimperlé, vous verrez une ancienne église paroissiale que l'on appelle la chapelle de l'Othéa. Cette chapelle n'a rien d'extraordinaire, c'est son histoire qui est extraordinaire. L'Othéa était la plus importante paroisse de Quimperlé il y a 10 siècles, avec ses 73 villages. À l'origine, Saint-Ajac aurait fondé un petit monastère à cet emplacement vers l'an 400 ou 500 pour l'évangélisation des Celtes de la région. En 1029, le comte de Cornouailles en fait donation à l'abbaye de Sainte-Croix, patronne de la paroisse Sainte-Thé, entre parenthèses Saint-Théa, disciple de Saint-Guénolé, religieux de l'an des Vénèques au VIe siècle. La population de cette paroisse était essentiellement rurale et comme son clergé, très pauvre, ignorante, soumise aux épidémies comme la peste. Il n'y avait ni bourg, ni rue, ni commerce sédentaire. À la Révolution, il y avait 1000 âmes pour 1800 hectares et une forte mortalité. C'est au XVIIIe siècle que la chapelle prit sa forme définitive lorsqu'elle fut remaniée par Jean Cariou, recteur de la paroisse de l'Othéa de 1640 à 1691. C'est ce dernier qui construisit le clocher et ajouta un petit porche donnant sur le cimetière paroissial. Pendant 50 ans, il fut un recteur très estimé, ce qui lui valut d'être inhumé sous le porche dont la dalle actuelle est d'origine. L'église de l'Othéa pouvait alors accueillir 300 à 400 personnes. En tant qu'église, elle avait droit à deux cloches, dont les paroissiens connaissaient bien le fonctionnement. Suivant le fonctionnement, on avertissait la population qu'il y avait un incendie, un décès, une naissance, etc. Ainsi, l'église se faisait office en quelque sorte de journal local. L'étendue de cette paroisse obligeait à avoir des relais, qu'on appelait des trèves. Les trèves n'avaient qu'une cloche pour relayer les messages de l'Othéa, de façon à ce que la population soit au courant de ce qui se passait. Un siècle, jour pour jour, après la mort de Jean Cariou, le dernier recteur, Jacques Gaillot, refusant de prêter serment à la constitution civile du clergé, fut arrêté, mis au cachot en ville et condamné à la déportation. Il se réfugia en Espagne, puis après le Concordat revint et fut nommé recteur de Cloire, où il mourut en 1805. En 1791, suite à Jacques Gaillot, la paroisse de l'Othéa est supprimée. Mais les paroissiens protestent par la force contre les inventaires et surtout contre le transfert des registres paroissiaux et des vases sacrés à Quimperlé. Grâce à une quête, François Lebeuse, un laboureur, rachète l'église en 1797 pour qu'elle soit à tout le monde. Mais depuis 1796, une loi interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Or, deux fidèles de l'Othéa, Étienne Rioux et Jacques Lebras, vont continuer à rassembler les anciens paroissiens. Le 24 mai 1797, alors qu'une assemblée se tient à l'église avec Étienne Rioux disant les litanies des saints, le chapelet et l'Angélus, et Jacques Lebras lui répondant, selon ce rituel au milieu des assistants, les gendarmes font irruption. Bousculade, cris des femmes et des enfants, tous sont jetés dehors. Rioux et Lebras sont jugés, avouent ce qu'ils faisaient et sont condamnés à 30 jours de prison. Avant la Révolution, il était écrit dans les registres L'église de Lotéa subsistait convenablement avec son presbytère à côté. Il y avait une fontaine qui ne tarissait jamais et on avait construit à proximité un four à pain qui servait à cuire galettes et gâteaux pour tous les gens des alentours. Tout se passait bien, sauf que c'était une population pauvre, une population d'agriculteurs bien sûr, mais aussi de bûcherons et de charbonniers. Certainement, à la quête du dimanche, le prêtre n'avait qu'un pécule bien modeste qui ne permettait pas d'entretenir comme il fallait la fameuse église. Après la Révolution, Lotéa devint une chapelle dépendant de la paroisse Saint-Michel à Quimperlé et on s'y rassemblait le mardi de Pâques, le lundi des Rogations et lors du Grand Pardon le dimanche de la Trinité. Mais en 1941, la chapelle n'était pas en bon état. La toiture avait besoin d'être réparée. Le recteur Bizien avait fait une quête dans ce but et le colonel de Boisanger, qui habitait le manoir de Guéblin, avait fait couper ses plus beaux arbres en 1942 pour refaire la charpente. Or, en 1943, une bombe incendiaire est tombée sur la métairie de Guéblin. Les Anglais s'étaient trompés de cible. Ils voulaient coincer des officiers allemands et leur grand chef qui venait d'arriver. Finalement, les arbres ont servi à refaire la charpente de la métairie. La chapelle non classée, monument historique, tombe peu à peu en ruine. Les pardons s'arrêtent entre 1947 et 1985. En 1949, les statues et le grand crucifix trouvent abri à Notre-Dame. En 1955, les fermiers qui habitaient en face ont entendu un bruit énorme, comme un tremblement de terre. Et le toit s'est effondré. Le petit porche est mis alors à l'abri dans la cour du cinéma Éden. Le dallage disparaît et la ruine est complète. La végétation l'envahit. La route goudronnée empiète sur son enclos. Ce lieu devient une carrière où chacun vient se servir. Tout cela jusqu'à sa renaissance à partir de 1985. En 1982, quand nous sommes arrivés à Lotéa, à la place de la chapelle, il y avait des arbres. Il ne restait que le pignon du fond, envahi par le lierre. Le long de l'emplacement de l'ex-chapelle, les voisins avaient fait une pelouse qu'ils entretenaient. Nous voulions au moins sauvegarder le pignon, mais nous connaissions très peu de monde à Quimperlé, et ce projet apparemment n'intéressait personne. Finalement, en 1984, la Société historique de Quimperlé a écrit des articles dans Ouest France et Le Télégramme disant que c'était une honte de laisser s'écrouler le dernier vestige de ce lieu saint chanté par le poète Briseux, très connu en Bretagne. À la suite de cet article, les Quimperlois se sont réveillés et une première réunion a eu lieu. Nous n'y étions pas, mais une deuxième réunion a eu lieu aux environs de Pâques. J'y étais avec mon fils aîné Nicolas. Ce jour-là, nous avons fait la connaissance d'un jeune homme, Renan, qui s'était déjà manifesté à la réunion précédente. Il a dit qu'il n'était pas question de rénover le pignon, mais qu'il fallait reconstruire l'église. Tous l'ont traité de fou, car c'était tout de même une église assez importante. Ensuite, il y a eu une troisième réunion chez nous, en face de la chapelle. Renan avait amené un ami qui avait 30 ans, Roland. Il avait déjà restauré une chapelle plus petite, mais en très mauvais état. Tous les deux ont dit qu'il fallait refaire le pardon très vite, comme tous les ans, le dimanche de la Trinité, c'est-à-dire le dimanche après la Pentecôte. Encore une fois, tous ont dit que ce n'était pas possible, mais Renan a tenu bon. Il allait demander à un prêtre de venir célébrer la messe. Il nous a demandé de prêter deux tables, dont une plus grande pour célébrer l'Eucharistie et un drap en guise de nappe. Comme siège, chacun apporterait son pliant et nous partirions de la ferme comme autrefois. Cela s'est passé ainsi. Nous n'étions que 25 parce que Ouest France et Le Télégramme qui étaient présents à la réunion avaient oublié de l'annoncer. Mais nous étions tous profondément heureux et enthousiastes à l'idée de reconstruire ensemble cette église. Nous étions véritablement en communion les uns avec les autres. Nous sommes partis de la ferme en chantant en breton le chant de Lothéa, « Dan pardon Lothéa ». Avec nous, il y avait un homme aveugle qui tenait l'épaule de son petit-fils et lui demandait « C'est comment Lothéa maintenant ?» Et le petit-fils répondait « C'est comme avant, il y a des champs, des arbres, et le grand-père était tout heureux, c'était touchant. » Ensuite, nous nous sommes installés derrière le pignon de la chapelle comme prévu. Les voisins avaient tondu la pelouse. Renan avait rapporté de l'église Sainte-Croix de Quimperlé la statue de Saint-Théa et il l'a installée dans le pignon, en hauteur, à l'emplacement de l'ancien vitrail, juste au-dessus du prêtre. Après, la messe a commencé. Cela a été pour moi la plus belle des messes auxquelles j'ai assisté, même s'il y avait très peu de décors. Nous étions tous très recueillis, et au moment de la communion, nous étions au ciel. Mais sur terre, un vent violent s'est levé. La statue a commencé à se balancer. Le prêtre s'est déplacé de quelques pas pour mettre le calice sur l'autre table, et juste à ce moment-là, la statue est tombée à l'endroit exact où aurait dû être le prêtre. Premier miracle de Lothéa, le prêtre, heureusement, n'est pas mort. Ensuite, Renan a demandé à la mairie de couper tous les arbres qui étaient sur l'emplacement de la chapelle. Il a demandé aussi aux agriculteurs de les dessoucher. Ils ont été d'accord à la condition que la chapelle soit reconstruite. L'été qui a suivi, il faisait froid et il ne pleuvait pas. Donc les gens, au lieu d'aller se geler sur la plage, venaient avec des pelles et des pioches et ils piochaient. Moi, je faisais des gâteaux au yaourt et j'apportais des jus de fruits et du cidre. Et chaque fois que l'on trouvait dans le sol une pierre de voûte ou de pilier, on avait droit à un coup de cidre. Si bien qu'il y avait beaucoup d'ambiance sur le chantier. Et tout l'été, nous avons travaillé comme cela. Pendant ce temps, Renan prenait des photos. Nous lui avons dit que c'était bien de prendre des photos, mais que nous allions manquer de pierres pour reconstruire la chapelle. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais que des solutions. Il est donc allé à Quimperlé en disant que nous avions besoin de pierres pour reconstruire la chapelle. Et des agriculteurs ont proposé des bâtiments entiers, à la condition qu'ils les démolissent. Renan a demandé à ses cousins, ses copains, ses frères de l'aider. Et ensuite, il a demandé une benne à la mairie pour tout transporter à Lothéa et déposer les pierres dans le champ d'à côté. Mais il n'y avait pas que la chapelle à reconstruire ou restaurer. Un arbre poussait dans le four à pain. La fontaine et le lavoir étaient inaccessibles à cause des ronces et en très mauvais état. La croix derrière le pignon était en morceaux. Il a fallu la réparer. Et le mur qui entourait le placide, tantôt était au ras du sol et tantôt à 2 mètres du sol. Pour tous ces travaux, une équipe d'hommes s'est constituée. Ils se réunissaient 1 à 2 fois par semaine et c'était très joyeux. Mais pour l'église elle-même, il nous fallait un maçon et il fallait aussi des moyens très importants. Alors nous avons tout de suite remis en route les pardons et les fest-noz. Le pardon est une fête qui dure toute la journée. Elle commence par une procession avec beaucoup de personnes en costume breton, d'autres qui portent des bannières, des statues et des croix. Elle est suivie d'une messe, d'un repas de crêpes, de vêpres, suivie du salut du Saint-Sacrement, et se termine par un goûter de crêpes. Nous avions même rajouté le soir un dîner des bénévoles où nous étions environ 80. Quant au fest-noz, c'est une fête de nuit qui commence par un repas avec saucisses, andouilles, pommes de terre et crêpes ou tartes aux pommes. Puis tous ceux qui veulent, jeunes et vieux, dansent des rondes ou farandoles au son du biniou ou sur l'air des chants bretons. Pour le reste, il y a eu des dons, des cotisations aussi, mais beaucoup cotisaient en donnant de leur temps. Il y a eu aussi, à plusieurs reprises, des dons exceptionnels, incroyables. Un jour, l'équipe des bénévoles travaillait sur le chantier. Ils ont vu passer un homme que connaissait Guy, l'un d'entre eux. Cet homme leur dit « Je ne peux pas vous aider, malheureusement, mais je peux vous faire un petit chèque. Guy accepte, met le chèque dans sa poche sans regarder et rentre chez lui. À ce moment-là, il nous fallait 100 000 nouveaux francs pour pouvoir continuer les travaux. Or Guy, en regardant le chèque, voit 100 000 francs. Aussitôt, il appelle cet homme pour lui dire qu'il a dû se tromper. C'était l'époque du passage des anciens francs aux nouveaux francs, et cet homme n'était pas tout jeune. Mais il a répondu qu'il ne s'était pas trompé. C'était bien 100 000 nouveaux francs qu'il voulait donner. Simplement, il ne voulait pas que cela se sache, que l'on dise son nom. Il y a eu d'autres dons exceptionnels, par exemple de la part d'une personne qui s'appelait Marianne et qui aimait beaucoup cette chapelle. Elle était veuve et avait perdu le seul enfant qu'elle aurait pu avoir. Elle voulait donner tout son argent pour cette chapelle. Nous lui avons dit que ce n'était pas prudent, qu'elle en aurait besoin un jour. Mais elle ne nous a pas écoutés. Elle nous a dit « Le Seigneur s'occupera de moi ». Avec la première somme, nous avons acheté une cloche, car celle qui existait était partie à Haïti. Nous l'avions choisie comme marraine et nous avons appelé la cloche Marianne. Elle est venue en costume breton. La cérémonie a eu lieu sur l'emplacement de la chapelle. C'était magnifique et très émouvant. Après, elle a encore donné de l'argent. Elle avait dit que le bon Dieu s'occuperait d'elle, et elle avait raison. Elle est morte en quelques jours à l'hôpital, accompagnée par sa voisine. À son enterrement, il y avait beaucoup de monde, toute la grande famille de l'OTA. Ensuite, l'association Bresse Santelle nous a donné une autre cloche qui était déjà baptisée. Elle s'appelle Marie-Antoinette. Ainsi, Marianne et Marie-Antoinette cohabitent en haut du clocher de l'OTA. Encore un miracle de l'OTA. Et puis mon mari a découvert à Rennes, au moment où nous avions le plus besoin d'argent, une fondation qui aidait financièrement la rénovation ou la restauration de bâtiments en Bretagne, qu'ils soient religieux ou pas. À ce moment-là, cette fondation n'avait reçu aucun projet sérieux. Or, nous avions un architecte qui avait fait bénévolement des plans minutieux et il avait prévu que si nous avions de l'argent, nous pourrions reconstruire la chapelle en 15 ans. Nous avions aussi beaucoup de photos anciennes et de tableaux de cette chapelle, mais aussi de nombreuses photos des travaux accomplis. Des représentants de cette fondation privée sont venus sur place. Ils ont pu constater que notre projet était très sérieux. À la suite de cette visite, mon mari me dictait des lettres et envoyait les devis pour les nouveaux travaux. La fondation remboursait en effet sur devis. Le conseil général s'est également intéressé à nos travaux et remboursait la TVA sur facture. Quant à la mairie, elle nous prêtait des tables, chaises et tentes pour nos pardons et nos fest-noz. Maintenant, elle paie l'électricité et entretient le terrain autour de la chapelle, ce que nous apprécions. Tous ces travaux ont duré 14 ans et demi, un peu moins de temps que ce qu'avait prévu l'architecte, ce qui est extraordinaire quand on se rappelle l'état de la chapelle au début. La dernière grande bataille a été le choix des vitraux. Cela n'a pas été facile, car dans l'association, nous avions de fortes personnalités. On s'entendait bien, mais de temps en temps, il y avait des clashs. Pour les vitraux, certains voulaient des vitraux figuratifs et d'autres des vitraux non figuratifs. Finalement, on a choisi des vitraux figuratifs très clairs. Le vitrail du pignon d'origine représente Saint Michel-Archange terrassant le démon. Comme la chapelle est dédiée à la Sainte Trinité, le vitrail au-dessus de l'autel devait absolument représenter la Sainte Trinité. Or, ce vitrail est en deux parties. Aussi, ce n'était pas facile. Finalement, nous avons choisi le baptême du Christ par Jean-Baptiste. En haut, on voit la main du Père avec trois doigts tendus vers le bas et ses paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Une colombe qui représente l'Esprit-Saint descend sur le Christ. À droite, Jean-Baptiste est représenté baptisant Jésus. À droite de l'autel, un vitrail en trois parties représente en haut la vigne et le blé, en dessous le pain et le vin, et en dessous un poisson en forme de barque et un filet en forme de voile. Cette dernière partie est particulièrement intéressante car elle évoque la tempête apaisée ou la pêche miraculeuse. Plus à droite encore, un très beau vitrail représente Saint Théa portant l'église. À gauche de l'autel, un vitrail représente Sainte Anne faisant le catéchisme à la Sainte Vierge avec la Torah. Enfin, deux oculus représentent l'un la création et l'autre la coquille et le bâton pour rappeler que pendant cette période de reconstruction, Renan est allé deux fois à Saint-Jacques de Compostelle à pied. Tout le mobilier de la chapelle, chaire de réfectoire, deux autels, bancs, statues, la partie centrale d'un confessionnal et même l'orgue nous ont été donnés, à l'exception de bancs moins beaux mais plus confortables que nous avons achetés. Une bannière a été faite très rapidement, représentant d'un côté Saint Théa et de l'autre la Sainte Trinité. Voilà l'histoire de la chapelle de l'Othéa telle qu'elle est racontée par moi-même ou mes enfants ou petits-enfants à tous ceux qui passent par ce petit hameau pour aller se promener en forêt. J'ajoute que l'association a traversé des tempêtes. Par moments, l'entente n'était pas toujours facile, mais la prière a opéré à plusieurs reprises des petits miracles. Une religieuse à qui j'avais confié au départ ce projet m'avait dit « La chapelle sera reconstruite, mais le démon fera tout pour l'en empêcher. » Et je peux dire que c'est ce qui s'est passé. Les pardons et les fest-noz ont continué jusqu'au début du Covid et nous espérons qu'ils reprendront un jour. Mais nous continuons à raconter cette merveilleuse histoire. Maintenant, je vais lire ce qu'a écrit notre cher président Renan pour préfacer le livre « Histoire d'une chapelle » qui retranscrit les témoignages d'une grande partie de ceux qui ont participé à cette reconstruction. Monique Schubert, L'Othéa, juin 2021. Et maintenant, voici la préface écrite par notre président, Renan. Quelle mission délicate que de devoir préfacer ce livre qui est le résultat d'un travail de longue haleine mené par Monique Schubert avec l'aide de Béatrice de Boisanger depuis quelques années. Je m'y attelle donc puisque c'est leur souhait. Les quelques lignes qui vont suivre sont le reflet de ma pensée 23 ans après la création de l'association pour la restauration de la chapelle de l'Othéa. Quel travail accompli! Que d'efforts fournis pendant tout ce temps! Ce qui a poussé les Quimperlois à se lancer dans cette folle aventure, c'est la foi héritée de leur père. D'ailleurs, à la fin de chaque pardon, c'est toujours le cantique d'Affes Santa Ducos qui est repris en chœur et qui couvre presque la volée des deux cloches. Mais je n'oublie pas le message d'Yves Bellancourt paru dans le bulletin de la Société d'Histoire de Quimperlé à l'époque. Ce collectage de témoignages oraux, riches et variés, reflète-t-il l'histoire exacte de la reconstruction de l'Othéa? Nous pouvons le penser car c'est le but recherché par les auteurs. Espérons que l'imagination dans certains cas n'ait pas pris le dessus inconsciemment ou que trop d'erreurs ne se soient immiscées au fil des souvenirs. Ce qu'il est important de savoir avant d'ouvrir ce livre, c'est que chacun a donné le meilleur de lui-même, à son niveau, aussi bien les jours de pardon, les soirs de fest-noz que sur le chantier de la reconstruction. Les innombrables bénévoles qui ont participé à cette tâche ne seront pas tous nommés, et ce serait utopique de vouloir le faire. Le cantique que cite Béatrice de Boisanger à la page suivante est tout à fait approprié. Mais j'ai une pensée toute particulière pour deux initiateurs, le général Pierre Hersard de la Ville-Marquet et M. François Schubert qui ont tant œuvré. Ce que j'ai pu faire moi-même, je le dois à ma mère. Je me souviens que dans les débuts, lorsqu'il fallait trouver quelqu'un de compétent pour telle ou telle intervention sur le site, c'est elle qui m'aiguillait vers la bonne personne. À 20 ans, j'étais bien loin de connaître les Quimperlois comme je les connais aujourd'hui. En 1985, il ne restait plus que le pignon du clocher encore debout. Nous avons pu sauver cette partie ancienne et nous avons réussi à rapatrier sur le site des éléments d'origine, tels que le porche, les pierres d'un pilier et les parties d'arche. Je me dois de dire en toute honnêteté et au risque de ternir un peu ce qui va suivre, que la chapelle de Lotéa n'est pas un édifice restauré. C'est un bâtiment reconstruit qui n'a rien à voir avec les nombreux joyaux architecturaux restaurés ou qui ont réussi à traverser les siècles sans trop souffrir dans nos campagnes bretonnes. Les murs et les parements intérieurs n'ont pas été montés dans des matériaux traditionnels. Les idées émises au sein de l'association n'ont pas toujours été simples à mettre en œuvre, d'où mon effacement du chantier pendant près d'une dizaine d'années. Mais cette parole d'espérance et de pardon, un pépin s'est fait pour germer, une tuile s'est fait pour construire, quand on la connaît, aide à avancer. N'ayons pas honte de dire qu'à Lotéa, les tensions ont existé. La reconstruction de la chapelle de Lotéa est le résultat d'un véritable élan populaire, d'un engouement surprenant qui a dépassé toutes les attentes. C'est cela qui en fait sa beauté. Ce qui a été édifié va bien au-delà de la notion de chapelle, fontaine et lavoir. C'est un sanctuaire où les gens aiment à venir prier, aiment à se retrouver pour participer aux fêtes du pardon et du fesnos. La notoriété de ces deux manifestations fait qu'elles sont devenues des dates incontournables pour beaucoup de Quimperlois, voire de Finistériens. Il n'y a qu'un air de différence entre le cultuel et le culturel, mais n'oublions pas que c'est un air de ressemblance. Propos du cardinal Marty que j'avais retenu et noté au congrès eucharistique de Lourdes en 1981. La belle amitié qui est née en Bretagne entre tous les comités de chapelle dédiés à Saint-Théa ou Saint-Thé et en Cornouailles britanniques est aussi la preuve vivante qu'un saint patron est avant tout un unificateur. Parler de fraternité ne serait pas un vain mot. Pour terminer, je dirais, bien que ce soit tellement évident, que le véritable chef de chantier, c'est la Sainte Trinité. Mon souhait le plus cher concernant l'association et son avenir, faire que des relèves de bénévoles aussi fortes et motivées que celles qui travaillent au jour où j'écris ces lignes se succèdent toujours à Lotéa. Accueillir des jeunes et les inviter à s'investir en leur faisant confiance, c'est le meilleur moyen de faire perdurer cet esprit de Lotéa créé par ceux qui se sont succédé toutes ces années. En 1985, à l'abbaye de Landévennec, retentissait le chant « Héritier et bâtisseur » et depuis Lotéa, nous l'avions entendu. Que ce cantique résonne encore longtemps dans le cœur de tous ceux qui veulent faire le bien, bénévole, et qui veulent essayer de construire du beau à Lotéa. Renan Pérennou, président de l'association de la chapelle de Lotéa. Thank you.
Thank you.